RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour les GG, c'est parti pour les grandes gueules. 3 heures de discussion avec vous au 32-16. Bonjour Olivier Truchot.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Emmanuel Devilliers, l'entrepreneur, le tout qui est toi, bonjour.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Abel Boyer, l'éducateur, bonjour mon cher Abel.
Salut les amis.
C'est le retour avec nous de Barbara Lefebvre, l'enseignante en histoire-géographie. Bonjour ma chère Barbara.
Bonjour les amis.
Avant de nous lancer dans les discussions, petite mise au point de ta part, puisqu'on a beaucoup entendu parler de toi, à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois dans des articles de presse à cause de déboires judiciaires.
Oui, ben je suis surtout très heureuse de vous retrouver après 3 semaines et demie d'absence. Alors d'abord, je veux remercier Alain, Olivier, Anaïs et Louis pour leur soutien absolument indéfectible qui incarne deux valeurs que je trouve de moins en moins fréquentes. Aujourd'hui, c'est la loyauté et l'intégrité professionnelle. Donc vraiment, je voulais vous remercier. Je voulais remercier aussi la direction de RMC qui m'a permis cette prise de distance qui était vraiment indispensable pour me protéger effectivement du déchaînement gratuit de haine à l'heure des réseaux sociaux qui ciblent et qui déforment les propos qu'on peut avoir. Et je veux quand même aussi rappeler qu'à l'origine des 2 affaires judiciaires qui me concernent aujourd'hui, on trouve 2 députés de la France Insoumise. Et ça, c'est factuel. Et rappeler qu'en 20 ans d'exposition médiatique, je n'ai jamais connu aucune poursuite judiciaire. Mais à lire la nature effectivement des insultes et des menaces qui sont proférées à mon égard sur les réseaux sociaux, je constate que je suis dans leur collimateur, en grande partie en raison de l'évolution nauséabonde de notre société depuis le 7 octobre, et ça aussi c'est tout à fait factuel. Et je veux vraiment remercier la direction d'RMC qui, à mon sens, a été exemplaire dans ce moment, puisqu'elle est restée absolument sereine en protégeant 2 principes essentiels dans une société démocratique. D'abord, la liberté d'expression. Et c'est une valeur et un principe fondamental, mais surtout sur notre antenne. Je pense que notamment les GG, c'est vraiment le talk show de débat, un des derniers talk shows de radio aujourd'hui où on a une vraie liberté d'expression avec une confrontation d'idées non seulement diverses, mais divergentes. Et un deuxième grand principe, c'est le principe de la présomption d'innocence. Et ça, c'est un principe essentiel. Parce que il n'y a pas de condamnation tant qu'il n'y a pas de jugement définitif. Et n'en déplaise à mes détracteurs, je fais appel de ma condamnation et donc je suis présumée innocente. Et ça aussi, c'est factuel. Et ce jugement, le jugement dont je fais appel, il concerne des propos que j'ai tenus dans les GG concernant l'agression du soignant de l'hôpital de Chalon, qui avait été agressé par des délinquants qui s'identifiaient eux-mêmes comme des gens du voyage. Et le tribunal a prononcé donc à mon encontre une amende pour injure aggravée et non pas pour provocation à la haine raciale, comme j'ai pu le lire parfois. Et même si c'est une peine minime, puisque c'est une amende simple, je tiens à faire appel parce que j'ai consacré une partie de ma vie publique à la lutte contre les racismes et que je considère que mes propos ont été extraits de leur contexte et déformés. Parce que j'ai jamais l'objectif d'essentialiser une communauté ethnique. Je ne visais véritablement que les agresseurs de ce soignant, une agression ultra-violente. Et d'ailleurs, j'invite chacun à réécouter le podcast du 8 avril 2024, qui est toujours disponible, pour se faire sa propre avis. J'ai vraiment confiance dans nos auditeurs. Je pense que nos auditeurs savent très bien que j'ai une parole passionnée, mais non généralisante, et que je leur fais confiance, ils me connaissent, ils savent que jamais, je n'ai cherché à stigmatiser ni une communauté ethnique, ni une communauté religieuse. Et c'est pour ça que je vais rester combative pour lutter contre les injustices et aussi pour défendre mes droits, faire valoir mes droits en tant que citoyen. Mais je ne suis pas dupe des réelles motivations de ceux qui aujourd'hui m'attaquent, depuis 2 ans et demi en particulier, et qui sont en train d'essayer d'instrumentaliser la règle de droit. Et je pense que c'était très important aujourd'hui de montrer que on reste serein, mais combatif, face aux pressions, face aux mensonges. Et donc, voilà, je vous remercie pour cette petite mise au point. Et maintenant, place au débat qui m'a bien manqué. Et je suis contente de retrouver Abel et Emmanuel, que je trouve très beaux. Ils se sont bien habillés. Et vraiment, ça fait plaisir. Parce que du coup, si j'avais je me serais mieux habillée pour eux.
C'est les frères Costard, mais t'as une similitude dans le bleu.
Par contre, on a fait un code couleur, ça, on s'était entendu. On a dit code couleur bleu.
Similitude dans le bleu. Tiens, on va commencer tout de suite notre premier sujet de discussion avec ce qui s'est passé à Nice hier dans le quartier des Moulins. Deux personnes tuées, six autres blessées. C'est du règlement de compte sur fond de trafic de drogue, même si les victimes n'ont rien à voir avec le trafic. Enfin, ça fait quand même, ça fout la trouille dans ce quartier des Moulins. 32-16 pour en parler avec nous.
On a entendu un coup de calage. Maintenant, on a l'habitude d'entendre des calages. Mais en pleine journée, je ne m'attendais pas. La dernière fois, là, c'était là. Juste ici, une grenade, plus rafale. Tous les jours, ça va se passer.
Nous sommes sur la place des Amaryllis, dans le quartier des Moulins à Nice, où doit ouvrir d'ailleurs dans quelques jours un petit poste de police municipale. Et alors, la manière dont le tueur a opéré, Olivier, est assez bluffant.
Oui, parce qu'effectivement, ça s'est passé l'après-midi. Les personnes qui ont été touchées par ce tir de Kalachnikov, je dis ce tir, c'est une rafale, hein, étaient attablées à la terrasse d'un café devant un magasin de bonbons sur une place. Le tireur est arrivé en trottinette électrique. Il a été déposé par un véhicule. Il a pris sa trottinette. Il est reparti en trottinette et entre-temps, il a fait feu avec une Kalachnikov. Le procureur a précisé que les deux personnes mortes âgées de 38 et 57 ans ne présentaient pas d'antécédents en lien avec le trafic de stupéfiants, donc ne sont pas liés a priori au narcotrafic. Parmi les six autres victimes, toutes blessées par balle, trois sont en urgence absolue. Le procureur a d'ailleurs indiqué que trois d'entre elles étaient connues de la police pour narcotrafic. Nous sommes dans un quartier des Moulins qui malheureusement a connu des problèmes très récemment. Des faits sont survenus le 8 mai au soir. Le 9 mai, d'ailleurs, le procureur fait un lien avec les violences de ces derniers jours. Rappelons que ce quartier est un quartier de reconquête républicaine. Visiblement, il y a encore du travail.
Oui, et qui a été rénové et à un quart d'heure à pied doit ouvrir après de longs travaux. Mais la prochaine grande gare TGV, c'est un projet de Nice. Abel, qu'est-ce que tu en penses?
Encore un fait divers lié au narcotrafic. Et quand on voit un petit peu le modus operandi avec ce tireur à trottinette qui tire dans le tas sans vraiment viser, peut-être même que c'est un mineur, peut-être que c'est un jeune qui fait partie du phénomène des charcleurs, ces jeunes à qui on promet de donner plusieurs milliers d'euros, on fournit une Kalachnikov pour accomplir des missions fallacieuses. Donc je pense que ça va donner aussi un petit peu d'humilité à Éric Ciotti, parce qu'on est face à une situation qui est encore plus dramatique que tout ce que l'on peut imaginer. Et le retard de la République, c'est d'avoir considéré cela pendant longtemps comme une sorte de délinquance des quartiers, de quartiers avec des petits jeunes qui sont perdus, alors que ces gens ont la volonté de devenir des vrais mafias. Eux, leur modèle, c'est vraiment de devenir comme les mafias italiennes, comme les grandes familles new-yorkaises. Mais le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui pensent qu'en jouant aux jeux vidéo, à Call of Duty, on peut manier une Kalachnikov, et il y a un manque de professionnalisme. Mais il faut en profiter pour essayer de stopper l'aggravement de la situation maintenant, parce que le jour où tous ces jeunes vont se professionnaliser, et le jour où on va tomber vraiment dans une société d'enfants soldats, le combat sera perdu. Et beaucoup de policiers le disent, je pense à Linda Kebab, à Abdoulaye Kanté. Là, on est à un carrefour dans 10 ans. Soit la France est un narco-État, il ne faut pas avoir peur de le dire, soit on aura réussi à sauver un petit peu les meubles. Parce que qu'est-ce qui caractérise, pour finir mon propos, ces trafiquants? Il y a le trafic de drogue, le trafic d'armes, la prostitution des mineurs, les règlements de compte, mais aussi la capacité de corruption que l'on a énormément minoré. Et déjà, les langues commencent à se délier un petit peu.
En tout cas, toi, tu ne serais pas étonné d'apprendre que le tireur qui court toujours, il n'y a pas eu d'interpellation dans cette affaire pour l'instant, mais que ça ne serait pas surprenant que ce soit mineur.
Ça peut être un mineur de 14-15 ans, malheureusement.
Emmanuel Devilliers.
Les faits sont très spectaculaires, d'autant spectaculaires que les protagonistes n'ont pas craint les poursuites qui vont être maintenant très fortes en termes d'enquête, et la police française est particulièrement efficace, chacun le sait. En réalité, on peut commenter tous ces cas d'espèce à longueur d'émission. Le problème, il est structurel, c'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas un caractère éminemment dissuasif de la répression de justice avec tous les outils de logistique, d'emprisonnement, de place donc d'emprisonnement et de rapidité des juges, on en sera là. Si les protagonistes n'ont pas la crainte d'être mis en prison pour une très longue durée.
Ils n'ont pas la crainte, parce que quand tu fais ça en plein milieu de l'après-midi,
et dans des conditions d'emprisonnement sans doute à certains égards plus strictes que l'idée qu'ils en ont par des camarades, on sera dans cette dérive qu'évoquait Abel à l'instant.
Barbara, sachant qu'un policier m'avait dit que c'était la guerre de territoire qui était initiée possiblement par la dézaine mafia qui essaie de mettre la main sur certains quartiers de Nice, quoi. C'est, voilà. Barbara.
Mais la rénovation de ce quartier, quartier des Moulins, sur la, on va dire, la quinzaine d'années qui s'est écoulée, c'est 220 millions d'euros. Voilà. Donc, je me rappelle qu'ici, on avait eu un petit échange avec Monsieur Bouamran de Saint-Ouen qui nous expliquait qu'il fallait créer du beau et que quand le quartier était beau, eh ben ça résolvait la délinquance. C'est bien triste et je suis désolée, mais non. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut qu'il y ait des réhabilitations de ces quartiers, ça ne fait pas l'ombre d'un doute.
Et c'est plutôt pas mal ce qui a été fait.
Ce qui a été fait est pas mal, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on a une problématique enquistée qui se double de la question du chômage. C'est des quartiers aussi où on a une surreprésentation de population au chômage, avec aussi beaucoup de gens qui ne travaillent pas, c'est-à-dire qui sont même pas de toute façon dans l'emploi, parce qu'ils n'en ont pas les qualifications. Et on a des quartiers dans lesquels on a de l'échec scolaire de masse. Comment vous voulez qu'on puisse s'en sortir ? Maintenant, moi, on arrive là au bilan de notre cher président. Il a attendu 2025 pour faire enfin une loi, pour avoir un arsenal judiciaire qui permette enfin de comprendre ce que Abel a dit, c'est-à-dire qu'on est en train de s'orienter vers un état dans lequel les narcotrafiquants vont avoir la main partout. Le PNACO, le durcissement d'un régime carcéral pour tous ces gens-là, le régime des repentis qui est refondé, le fait qu'on ait créé une infraction d'association criminelle sur le modèle italien. Mais pourquoi tout ça n'a pas été fait avant ? Il aura fallu attendre des meurtres, des crimes. On a eu en 2023 139 morts. Et là, en plus, c'est des innocents. Alors, excusez-moi de dire, en plus, c'est des innocents. Oui, parce que parfois, ils se règlent leurs comptes entre eux. C'est bien triste, mais c'est des règlements de comptes entre eux. Là, excusez-moi, vous passez pour aller faire vos courses parce que ça s'est passé devant une épicerie et vous prenez une balle de Kalachnikov et les blessés.
J'ai retrouvé 17 douilles, hein.
Ouais, 17 douilles à la Kalach quand même, hein. Donc, moi, effectivement, bon, monsieur Ciotti n'y peut pas grand chose, hein, parce que là, on est sur un niveau.
Il va arriver.
Et puis, Abel a eu raison d'insister sur la question de la corruption, notamment les crypto-actifs. Il y a un gros travail à faire sur la question du blanchiment de l'argent de la drogue, parce que le blanchiment se fait à la fois à la petite échelle, les nourrices dans les quartiers, etc. Mais ça se fait aussi à grande échelle, avec parfois un recyclage de l'argent de la drogue dans des circuits qui sont tout à fait légaux. Donc là, il va falloir sérieusement que l'État se penche là-dedans, au lieu d'aller chercher les poux dans certaines têtes qui servent à rien.
Et l'autre chose aussi qu'on oublie, eux, ces gens ne réfléchissent pas comme nous. Nous, on voit qu'il y a un écho médiatique et on est accablé. Pour eux, c'est un trophée. Ils ont une logique mafieuse, c'est-à-dire que quand ils voient que dans les médias, ça fait du bruit, ben, eux, ils sont contents. Parce que ça permet aussi d'envoyer un message à tous les narcotrafiquants du coin. L'écho médiatique fait partie de la guerre de territoire. Attention, ça, il ne faut pas l'oublier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais il faut le prendre en cause. Et comme je disais, le manque de professionnalisme. J'ai donné deux exemples très simples sur Marseille. Il y a un jeune charcleur qui est en prison, qui venait d'assassiner. Ce sont les jeunes tueurs à gages mineurs, en fait, à qui on propose des missions. Charcler, ça veut dire tuer quelqu'un, et jouer de la guitare, ça veut dire tirer à la Kalachnikov dans leur jargon. Ce jeune venait de tuer une personne. Il rentrait chez lui. Il a vu un monsieur qui avait juste un tapis de prière. Il a cru que c'était un fusil qui était caché. Il a tiré sur le monsieur. Et quand il est arrivé pour l'exécuter, il s'est rendu compte que, ah ben, en fait, c'était pas un fusil, c'était juste un tapis de prière. Donc, ces jeunes, ils sont pas professionnels. Et on risque d'avoir beaucoup de blessés et de morts collatéraux dont on ne parle peu, dont on parle trop peu. Et pour finir, moi, j'ai une maman que j'accompagne qui, pareil, sur Marseille, a pris une balle dans la jambe, en fait, bêtement, parce qu'elle se promenait, il y a eu des tirs et elle a pris une balle. Donc, il faut faire extrêmement attention et je pense que le prochain président de la République ou la prochaine présidente devra mettre le doigt vraiment dessus, mais surtout sur la capacité de corruption de ces organisations.
Hervé qui est avec nous de Gironde, de Libourne. Bonjour Hervé.
Bonjour à tous.
Et vous vouliez réagir parce que vous dites faut qu'on change de braquet dans ces histoires, quoi, en fait.
Ben, en fait, j'ai vécu au début des années 2000 à New York et je me rappelle avant ça, c'était le maire Giuliani qui était encore en exercice. Et en fait, New York, c'était très compliqué les années 80-90. Il y avait de la pègre, il y avait de la corruption, il y avait des prostituées dans les rues, etc. Et en fait, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est qu'ils s'est mis d'accord avec un des plus gros gangs de l'époque, qui en fait, avec les codes, a nettoyé la ville. C'est-à-dire qu'ils ont traité le mal par le mal. Alors, je ne dis pas que c'est la solution qu'il faut avoir, mais on est tellement, la situation était tellement incontrôlable qu'ils n'avaient pas de solution légale et normale pour pouvoir tout régler. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, vous allez à New York, et bien vous êtes en sécurité, vous marchez dans la rue, tout va très bien. Il n'y a pas des gens qui vous proposent... moi, j'habite à Bordeaux, je vais souvent... il y a certains endroits, vous baladez dans la rue, on vous propose du shit, on vous propose tout ça. Tout ça, c'est fini, quoi. Et en fait... ça a été très dur, il y a eu des morts, il y a eu voilà, mais ça a été réglé et sous couvert d'une acceptation politique de façon à ce que voilà, les choses soient faites.
Donc faut passer à la tolérance zéro quoi en fait aujourd'hui.
Ben, le problème c'est que on le fait avec notre raisonnement à nous. Et ouais. Ce que disait Abel à l'instant, c'est qu'ils ne sont pas du tout dans ce raisonnement-là. Mmh. Ils sont hors la loi. Quand vous dites il faut mettre l'armée, il y a plein de... Ah ben non, mais oui, il faut des gens qui soient...
Mais il faut surtout,
à la
non mais, enfin, il faut surtout pas, Hervé, il faut du travail de police judiciaire, il faut des témoignages aussi, parce que c'est aussi la peur qui règne dans ces quartiers. Or, il faut que, si on veut démanteler les trafics, ceux qui sont plus ou moins liés au trafic puissent aussi parler, raconter, dire qui en vit. Vous voyez, c'est malheureusement, c'est une espèce de toile d'araignée, bah, exactement oui, mais... ce qu'avait mis en place la mafia, et vous avez raison, que ce soit à New York ou en Italie, et on le voit encore du côté de certaines régions d'Italie, même si la Cosa Nostra a été plus ou moins démantelée. Mais Hervé, reste avec nous, parce qu'on a Alex, qui est fonctionnaire de police, et qui connaît ce quartier, puisqu'il est à Nice. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour Alex,
excusez-moi.
Bonjour à tous.
Bonjour Alex. Oui, vous connaissez ce quartier, qu'est-ce qui se passe alors?
Alors, ce qui se passe, c'est que le problème, c'est que le quartier est tenu par des étrangers en situation irrégulière, comme l'autre quartier à l'est de Nice. Et le problème, c'est que on a beau les attraper, les présenter à l'officier de police judiciaire, mais le problème, c'est que la justice derrière, elle fait pas son boulot. Donc on les attrape 20 fois par semaine peut-être, mais ils sont toujours dehors. Alors, des fois, ils vont peut-être faire un petit séjour en centre de rétention administratif, mais à l'issue, ils ressortent.
Et c'est eux qui tiennent les trafics? Ce sont eux qui tiennent les trafics.
C'est pour ça que les commentaires du maire ou les problèmes d'effectifs sont une réponse très subsidiaire. Le problème, il est structurel, il est dans le fonctionnement de la répression.
Alors après, il manque énormément aussi d'effectifs à Nice. Le problème à Nice, c'est qu'il y a très, 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 très peu d'effectifs. Et plus personne ne veut venir bosser à Nice. Pourquoi? Parce que vous prenez, par exemple, l'exemple de la région parisienne. Un fonctionnaire de police en région parisienne touche 250 euros de plus qu'un policier niçois. Je pense que le niveau de vie à Nice, il est au moins égal à celui de la région parisienne. Largement. Donc c'est compliqué de vouloir venir travailler à Nice, à part les niçois de naissance. Ouais. Mais sinon, il n'y a plus personne qui veut venir faire ce boulot à Nice.
Mais Alex, j'ai une question à vous poser. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le mode opératoire de cette fusillade où on a donc un tueur qui est déposé en voiture, qui prend sa trottinette. C'est pour mieux prendre la fuite, j'imagine, la trottinette, plutôt que repartir en voiture, risquer d'être bloqué dans une rue. Ouais. Et donc il y a aussi ce mode opératoire qui fait que pour la police, ça ne doit pas être évident de trouver la façon de récupérer, enfin d'essayer de le courser, peut-être de l'arrêter. Là, on n'a pas pu le faire.
Ah, mais le problème c'est que ils utilisent les trottinettes. En plus, en pleine opération de police dans le quartier, et le problème c'est que vous allez vouloir l'interpeller ou vous allez vous le percuter.
On est dans une guerre. Attends, on voit le type en trottinette partir, on le met hors d'état de nuire. Évidemment, c'est des nouvelles lois, mais sinon on ne fera que commenter.
C'est-à-dire qu'il faut lui tirer dessus, quoi.
Allez-y, Alex.
Et le problème, c'est que on va le mettre hors d'état de nuire. Mais le problème, c'est que le policier qui va le mettre hors d'état de nuire, et c'est lui qui va être emmerdé derrière.
Bien sûr. Non, mais c'est tout un changement de loi, bien sûr.
Alex, au début de votre propos, vous disiez le problème, c'est que c'est tenu par des communautés étrangères. On dit comme à l'est de Nice. C'est-à-dire, ce sont quelles communautés qui tiennent ces trafics?
C'est des gens de l'Afrique du Nord. Voilà. Ils vont les chercher à la frontière italienne. Ils les mettent en place dans les quartiers et c'est eux qui tiennent les points de deal.
D'accord. Et à l'est de Nice, c'est lié à la DZ Mafia? C'est lié à la DZ Mafia?
Oh, même pas forcément. D'accord. Pas forcément. Non, c'est un quartier qui s'affaiblit, l'autre qui veut prendre le dessus. Et puis voilà, ça a toujours été la guéguerre entre l'est et l'ouest à Nice.
Merci d'avoir été avec nous, Alex. Merci de nous avoir aidé à comprendre ce qui s'est passé. Merci à Hervé qui veut aussi qu'on passe à la manière forte. Il est 9h20. Vous êtes avec les grandes gueules, Abel Boyer, Emmanuel Devilliers, Barbara Lefebvre. Dans un instant, l'antivirus, protocole durci, dit le gouvernement. Est-ce que vous êtes dans la catégorie des gens qui s'en font pas du tout pour l'antivirus? Ou au contraire, vous dites attention, inquiétude, 32-16 pour le dire aux grandes gueules. 9h20, vous êtes sur RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Les Grandes Gueules avec vous au 32-16 comme Hervé et Alex qui ont pris la parole il y a un instant avec les Grandes Gueules, Abel Boyila, tout comme Emmanuel Devilliers et Barbarin Lefebvre. On vous attend au 32-16 là pour évoquer ce que vous ressentez par rapport à tout ce que vous lisez ou entendez sur l'antivirus. Vous savez qu'on a une Française qui a été testée positive, elle est en réanimation. Parmi les cas contacts à haut risque, aucun ne présente de symptômes. Et du côté du gouvernement, on dit on va durcir le protocole.
Oui, un changement de pied, hein, parce qu'il y a eu des critiques, notamment de certains médecins. Et donc Sébastien Lecornu a revu son protocole. Il prévient désormais que tous les cas contacts, sans exception, seront désormais mis en quarantaine renforcée en milieu hospitalier. Et l'expression mise en quarantaine est la bonne, puisque ce virus, hein, contrairement au Covid, a un taux d'incubation, beaucoup plus long. Ça peut aller jusqu'à justement 6 semaines, donc 42 jours. Maintenant, désormais, il y a deux réunions à Matignon. Deux réunions chaque jour interministérielles. Une ce matin, en ce moment même. Une cet après-midi. Donc, on voit bien que le gouvernement a mis enclenché la vitesse supérieure. En même temps, se pose toujours la question, je ne sais pas si vous la posez, mais pourquoi a-t-on décidé de rapatrier les passagers du HM Onduz en plusieurs pays? Pourquoi n'a-t-on pas confiné sur le bateau 42 jours ces passagers? Je ne suis pas le seul à dire, Monsieur Pialou, qui était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin, se pose également la question. Il y a peut-être quand même une faute de l'OMS, parce que c'est quand même bizarre d'avoir pris le risque d'exporter le virus. Du coup, on a un cas en France, c'est pas anodin, alors que ce cas en France, on n'aurait jamais dû l'avoir. Il aurait dû rester sur ce bateau. Donc là, il y a peut-être une erreur initiale. Espérons que ça va pas tourner à la pandémie ce soir, parce que là, pour le coup, on pourra quand même pointer du doigt le rôle de l'OMS au départ de cette histoire.
Alors, choisis ton camp, camarade, rassuré, inquiété, Abel.
Moi, j'en ai marre de cette communication politique. Effectivement, fallait laisser confiner sur ce bateau de croisière. D'autant plus que ça va encore nourrir la sphère complotiste. Je suis désolé, on n'a pas encore vraiment soldé l'épisode du Covid. On est encore en train de subir les conséquences sur la santé mentale, notamment des jeunes. On n'a toujours pas la cause, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de circuler, il n'y a rien à voir. Il y a des gens quand même qui sont en deuil jusqu'aujourd'hui. Il y a toujours des questionnements sur le vaccin. Et là, on repart un petit peu sur ce nouveau business. Désolé, le business des épidémiologistes qui vont encore se déployer sur les plateaux télé et nous expliquer que maintenant, faites attention à papy, mamie, lavez-vous les mains. On va encore nous expliquer comment, à la limite, faut aller aux toilettes. Et on n'a plus envie de ça, en fait. Je pense que là, cette fois-ci, la population ne l'acceptera pas. Donc, je ne suis ni inquiet, ni non plus dans une sorte de légèreté. Je suis attentif à la situation. Mais il y a déjà une grave erreur, comme tu l'as dit, Olivier, c'est de ne pas avoir gardé cette population, et c'est pas péjoratif de le dire, confinée sur le bateau jusqu'à la fin de la période d'incubation.
Mais t'es pas plus inquiet que ça, ou...
Non, mais je suis obligé d'être attentif, ouais. Puisque vu qu'on a des bras cassés, et on ne sait pas ce que Ursula, à la tête de l'Europe, va nous sortir, parce qu'il y a le business des laboratoires peut-être à faire tourner. Je suis désolé, moi je fais partie des gens qui sont sceptiques et attentifs.
Barbara ?
Ah, écoutez, vous connaissez mon attachement à la question de la cause animale. Je comprends pas. Pour la dermatose nodulaire contagieuse, on abattait les troupeaux de vaches saines. Alors là, qu'est-ce qu'il voudrait qu'on
abatte les croisiéristes?
Voilà, qu'on abatte les croisiéristes.
Attention, alerte Arcom.
Un
peu d'humour.
Les généraux de Plateau TV sont jaloux des médecins maintenant.
Mais excusez-moi, on n'a eu aucun scrupule à aller faire des choses complètement absurdes d'un point de vue sanitaire avec l'histoire de la DNC. Et encore une fois, je renvoie encore tout mon soutien à tous ces éleveurs qui ont vu leurs troupeaux abattus sur des soupçons de d'un virus qui n'était pas là. Donc là, on commence à mettre la trouille à tout le monde, à réactiver, parce que vous savez, au niveau de la psychologie collective, on ne fait qu'une seule chose, là, c'est réactiver des mauvais réflexes dans l'esprit des gens, activer la peur, activer, comme l'a dit Abel, les complotistes, et Dieu sait si en plus depuis le Covid, ils se sont démultipliés, parce qu'alors avec la période du Covid, là, ils ont explosé dans tous les sens. Maintenant, tout est mélangé en plus, hein, les pédophiles, les complots
des États-Unis. Les croisiéristes pédophiles.
Voilà, non mais.
C'est une vanne, Stéphane.
C'est une vanne, oui. Mais moi, je n'ai qu'une peur, c'est qu'on nous ressorte un professeur Salomon. Surtout, je demande à monsieur Lecornu, il fait deux réunions par jour, s'il le veut, il nous en fait six. Surtout pas le soir.
De décompte.
Le docteur qui vient nous dire, alors aujourd'hui, il y en a tant qui sont blessés.
Tu sais que le professeur Delfrécy de retour, il était hier à la réunion à Matignon, hier soir.
Je sais, mais je dis non. Je dis non, je ne veux plus les voir, je ne veux plus les entendre. Maintenant, qu'on nous fasse des petits points comme ça pour nous expliquer, moi ça y est, j'ai déjà compris, vous pensez bien, j'ai déjà regardé. En plus, je connaissais déjà l'antivirus. Les zoonoses, les virus comme ça respiratoires, il y en
a
plein.
Alors toi, pardon.
Non, mais
toi,
moi, je suis
Barbara, je peux t'interpeller. Je peux t'interpeller parce qu'ici même, dans cette émission, on a fait des débats sur les rats à Paris, enfin les surmulots. Parce que quand on veut être sympa avec les rats, on les appelle les surmulots. En nous expliquant, enfin toi et la mairie de Paris, que c'était pas grave si on les tuait pas, que c'était formidable. Il y en a plein dans les parcs. Moi, je vais souvent dans les squares avec mon fils. Il y a toujours des rats. Maintenant, on les voit, mais ils ont plus peur. Hein. Ils sont là, etc. Bon. Donc,
et alors, que quand même,
c'est un virus, ce sont les rongeurs qui nous refilent. Ils vont peut-être arrêter d'avoir ce regard sympathique sur les surmulots et peut-être quand même essayer de se protéger nos enfants.
Qu'est-ce qui explique la surpopulation de rats dans les grandes villes?
C'est les poubelles non ramassées.
Les poubelles, c'est le manque d'hygiène humains.
Bien sûr.
Voilà. Ouais, de la même façon, comment est-ce qu'on
explique... On utilisait aussi des raticides avant qu'on l'utilise.
Comment on explique qu'un certain nombre de maladies animales soient transmises à l'homme? C'est parce que l'homme s'est de plus en plus rapproché par l'urbanisation des zones d'habitation.
Comment on va pas supprimer
les hommes? Oui, mais notamment, par exemple, les chauves-souris. Tu vas en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. L'extension ininterrompue des métropoles sous la forme d'ailleurs parfois de bidonville, dans des zones où tu as des chauves-souris.
D'accord, mais pourquoi y a-t-il plus de rongeurs à Paris? C'est puisqu'on n'utilise plus de raticides non plus.
C'est parce que la ville est de plus en plus crade.
Non. C'est parce qu'on ne veut plus les tuer.
Excuse-moi, tu ne pourras pas.
C'est idéologique.
Mais vous ne pourrez pas vous débarrasser de tous les rats.
On peut les contenir, on n'est pas obligé de.
Ça n'empêchera pas les grands virus de nous contaminer. Et c'est pas les rats qui ont.
L'Académie de médecine avait raison.
Mais ne vous en prenez pas aux rats. Regardez plutôt le comportement des humains et vous verrez que là, il y aura bien plus de ménage à faire que chez les rats.
D'accord, mais l'Académie de médecine avait alerté sur la présence de tous ces rongeurs à Paris. Elle avait raison.
Mais voyez, encore une fois, vous voulez vous en prendre aux animaux alors que regardez les comportement humain.
C'est Sam qui veut intervenir dans la discussion. Il est chef d'entreprise du côté du Val d'Oise. Bonjour Sam.
Oui, bonjour. Alors moi, je vais prendre la défense de cette dame. Je n'ai pas écouté son prénom. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, il y a une psychose, il y a une inquiétude aujourd'hui de la population. Moi, je suis le dirigeant d'un grand site de masques français en France. Et on a vu
les affaires vont être bonnes.
Voilà, j'étais tranquillement chez moi, d'un coup le site il s'est mis à exploser de commandes. Alors ça va peut-être réjouir plein de chefs d'entreprise, mais moi ça me réjouit pas parce que on sort du Covid, on se dit bon, on va pouvoir travailler normalement avec sereinement, etc. Et là on replonge la France dans encore une psychose et je vous jure, on est à 1000 commandes, je crois, par heure.
Ben vous plaignez, c'est étonnant. Le vous type, il vend des masques, il se perd dans vendre.
Du FFP2
FFP2. Alors moi, je ne sais pas si je peux citer mon site, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, France Masque, on est leader sur le masque. On a été mandaté par l'État, car il y a eu des usines qui ont fermé. Donc j'ai stocké à mes frais tous ces masques-là. Et on était à deux doigts de fermer. Et vendredi, le site s'est mis à exploser, etc.
Vous allez pouvoir écouter.
Alors, cher Sam, c'est moi qui ai construit l'usine Call Me Open, dont j'étais président en 2010, pardon. Vous connaissez bien. Call Me Open, bien sûr. Donc, nous sommes d'ex-confrères, si je puis dire. Il est vrai que le yo-yo des fabrications entre une demande accrue immédiate et ensuite plus de demandes, des problèmes d'attribution de l'État parfois à des fabricants chinois, c'est compliqué. Pour revenir au sujet, sujet simplement d'un mot. Il faut aussi espérer que cet épisode très médiatique ne va pas nous distraire, nous les Français, du grand rendez-vous d'élection présidentielle, comme on a eu la guerre en Ukraine la dernière fois, et les problèmes administratifs de François Fillon en 2017.
T'es en train de dire que le gouvernement en fait un peu trop parce que ça permet de pas parler des carburants, par exemple.
En train de dire qu'on a un gouvernement
on aimerait bien que l'économie de la France évolue. Donc on n'a pas besoin vraiment de parler de ce virus. Je pense que d'ici quelques semaines, on n'entendra plus parler.
Alors, Sam vous dit d'ici quelques semaines, on n'entendra plus parler. J'ai pas mal de messages qui arrivent en disant, dites donc les amis, avec la Coupe du Monde qui arrive dans un mois et demi, est-ce qu'on va pas se payer un petit... une espèce d'épidémie d'antivirus,
mais
avec les dizaines de milliers de personnes qui vont se retrouver aux États-Unis, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient contaminés.
Cette souche-là qui permet des contaminations interhumaines, d'accord ? Bon, c'est donc une souche spécifique d'antivirus. Il est connu. Ça va faire plus de 40 ans qu'on le connaît.
A priori, il y a des milliers de cas en Allemagne chaque année déjà.
Oui, mais pas celui-là, hein.
Cette souche-là, elle est interhumaine. Elle a une forme de gravité, elle se transmet de l'homme. Attention, de façon vraiment avec des contacts rapprochés. Il faut vraiment être dans la même pièce.
La létalité de 40%.
Oui, d'accord, mais il y a plein de choses qui sont d'une létalité de 40%. Tu crois que bouffer de la merde et boire de l'alcool et fumer de la cigarette, c'est pas...
Non. Là, Barbara, là, tu viens de complotiste. Tu vois ?
Mais non,
mais... Ah,
une bonne bouteille.
Il y a pas de létalité.
Non. Barbara, on peut pas dénoncer le complotisme.
J'ai pas fait ce complotisme là.
Mais reprendre des emmenures, dire 40% c'est rien. Non, 40% de mortalité, de létalité.
Mais ça veut rien dire parce que si c'est appliqué sur des croisiéristes bedonnants de 80 ans surnourris pendant un mois.
Eh bien, tu attends parce que la personne qui est morte n'avait pas 80 ans et n'était pas bedonnante.
Oui, d'accord, mais c'est 0,005%.
Barbara, si tu permets qu'on dise un mot dans l'émission, juste un petit mot. Moi, je voudrais dire que c'est scandaleux que l'État appelle Monsieur Delfraissy, qui a prouvé son inefficacité, son échec cuisant. Il l'a d'ailleurs lui-même reconnu. Je crois même dans un ouvrage. Et hier soir, on rappelle ce monsieur qui est très âgé, qui a toujours sa chemise ouverte jusqu'au nombril, qui nous a fait dépenser 450 milliards. Non, mais les gens qui nous écoutent, c'est grave. Parce qu'on a des difficultés économiques majeures en France. Alors, 450 milliards, c'est 10 ans de budget de la défense dans ce qui est vraiment dépensé. C'est 30 fois plus qu'il en faudrait pour maintenir les prix du carburant d'avant crise. Donc c'est parfaitement scandaleux. Et le rôle que joue monsieur Le Cornu, qui est un très jeune premier ministre, même s'il fait plus que son âge, dans un rôle de couillon solennel, c'est pas rassurant. Et personnellement, je m'inquiéterai seulement quand il y aura plus de cons contacts que de cas contacts.
Oh là, elle était belle.
Merci Emmanuel.
De cons contacts, de cas
contacts. Sam, au moins, il y a votre entreprise qui fonctionne bien quand même, c'est ce qu'on retiendra, quoi. Merci d'avoir été avec nous. Sam, qui c'est France Masque, hein, si j'ai bien vu, est-ce que vous nous avez dit. Est-ce que Sébastien Le Cornu qui durcit le protocole, est-ce que ça vous rassure, oui ou non? On va voir ce que vous en dites. Ah ben 50-50.
Ah ben voilà.
50-50.
C'est rare, c'est rare.
Voilà.
Mais non, mais parce que.
Ils y arrivent.
C'est-à-dire que les Français sont tellement fatigués. On l'a dit il y a quelques semaines. Quand la majorité des Français, leur seul objectif, c'est de survivre à la fin du mois, eh ben, on peut leur mettre toutes les disquettes. Les gens sont fatigués. Et ils vont nourrir la parole complotiste. Vous savez, ça va être quoi la prochaine étape? Si un enfant est contaminé et qu'on demande aux enfants de mettre les masques, on est mort. Il y aura plus d'élection présidentielle. Et on en reparle.
Dans l'intérêt national, on devrait banaliser cette affaire, car ce qui compte, c'est l'élection présidentielle. On a quand même le droit de voter en France, de décider de notre avenir, plutôt que d'être ingurgité comme des oies par des journalistes qui commencent à nous gonfler avec cet antivirus.
Enfin, tu te rends compte du problème que vivent les oies avec le foie gras. Je suis ravie d'avoir enfin pu te ramener sur mes lignes.
Écoute, tu pourras en parler tout à l'heure
au
professeur Mégarban, le chef du service de réanimation à l'hôpital Larry Boisière. Il est très au fait. Il sera tout à l'heure en plateau avec nous. Tu pourras lui faire part de toutes tes critiques au professeur Mégarban. Dans un instant, là, on s'en fout pas. Il est 10h20 avec les GG en direct sur RMC, RMC Story. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les Grandes Grande Gueule, Barbara Lefèvre, Emmanuel De Villiers, Abel Boyi. Voilà nos trois GG. On vous donnera la parole tout à l'heure à 10h parce qu'on va reparler d'un film qui sort à Cannes et en salle demain. Ça s'appelle L'Abandon et ça revient sur les dernières semaines de Samuel Paty, le professeur assassiné par un terroriste. Et donc, ce qu'on voulait savoir, on aura l'un des producteurs du film et l'auteur du livre Les Derniers Jours de Samuel Paty avec nous. Ça permettra de reparler de ce drame épouvantable et surtout de savoir si aujourd'hui les enseignants se sentent protégés ou pas. Ça, ce sera tout à l'heure à 10h. En attendant, c'est long, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Avec Anaïs Inès Sainz. Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Craquage, pétage de plomb, réflexe colonial même, diront certains, ou alors simple recadrage vis-à-vis d'un public qui n'écoute pas. La vidéo d'Emmanuel Macron qui perd ses nerfs lors d'une prise de parole hier à l'université de Nairobi au Kenya a fait beaucoup réagir. Écoutez.
Excuse me, everybody. Hey. I'm sorry guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. If you want to stay here, we listen to the people and we play in the same game. Okay? Thank you.
Bon les GG, est-ce qu'on s'en fout ou pas? Barbara?
Non, on s'en fout pas.
Abel?
On s'en fout pas.
Emmanuel?
Non plus.
Abel?
Ben, on a un nouvel épisode de Tintin au Kenya. C'est-à-dire que dans sa tête, en plus, je suis sûr qu'il se dit qu'il fait le bien, mais il faut juste comparer. Est-ce que la même situation dans une salle aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, il aurait interpellé la population comme ça? Pas du tout. Et là, dans ce sommet France-Afrique ou je ne sais pas quoi, il parle un peu de la nouvelle souveraineté de l'Afrique. Ben, moi, je pose juste une question. Pourquoi est-ce que le franc CFA est toujours produit en France? Juste ça. Donc, Emmanuel Macron n'est évidemment pas raciste, mais il a été encore une fois maladroit et dans une dérive pseudo-colonialiste. Donc, bravo pour cette épisode de Tintin au Kenya.
Emmanuel, alors je m'inscris totalement en faux avec ce qui vient d'être dit.
Peu, hein,
j'espère que les auditeurs le comprennent bien. Moi, je considère, ayant géré beaucoup d'événements et ayant été nombreuses fois à la place de ce qu'a vécu le président hier, il avait raison sur le fond, car c'était sans doute une conférence de haut niveau.
Mais
avec
sur la forme,
des propos très sensibles. Ensuite, sur la forme...
Est-ce qu'il l'aurait fait aux États-Unis par exemple, à la Maison Blanche?
Ça, je ne sais pas, mais pourquoi pas. Je pense qu'il a dérapé un peu sur la forme, dans la mesure où
il s'est
présenté comme un chef. Il aurait dû, par exemple, au lieu de dire hey guys, qui est un langage vraiment de pizzeria ou pour aider quelqu'un, il aurait dû dire ladies and gentlemen, enfin être plus solennel, moins direct. Donc c'est une erreur de ce point de vue-là, mais on peut l'excuser parce que sans doute que cette intervention était nécessaire. Alors il n'avait pas sans doute les collaborateurs pour aller suffisamment dans les allées. Enfin c'est un problème d'organisation.
Est-ce que c'est pas une réaction
spontanée, un problème d'organisation du colloque. On peut y voir néanmoins, si on veut ajouter une petite critique, une forme d'exaltation euphorique de notre président, malgré 9 ans de présidence. Et il a été salué par la ravissante présentatrice qui a dit à la fin « And this is called leadership ». Comme quoi, il était quand même en terrain conquis. Mais j'ajoute pour terminer qu'il aurait dû conclure en reprenant les mots de son prédécesseur aux Philippines, puisqu'il était lancé en anglais « Be you, be proud of you, because you can be do what you want to do
». Tu parles aussi bien anglais que Emmanuel Macron.
C'est le président
Alors, ouais. Barbara, est-ce que c'était, comme le dit Abel, Tintin au Kenya ou pas?
Je trouve quand même qu'il a une petite tendance, monsieur Macron, parce que moi je me rappelle quand même de l'humiliation qu'il avait fait subir au président burkinabé en demandant d'aller réparer la clim.
Merci.
À l'université de Ouagadougou. Donc, excusez-moi, je dirais pas colonialisme, je dirais un certain paternalisme, oui. Encore une fois, alors, tu dis, il ferait pas ça en Angleterre, il ferait pas ça aux États-Unis, mais je pense qu'il ferait pas ça non plus dans d'anciennes colonies françaises comme l'Algérie, par exemple. Je pense pas que dans une université algérienne, il se permettrait de parler comme
c'est-à-dire
ça.
Il y aurait pas de bruit dans l'université algérienne.
Non, c'est pas ça, il y en aurait, mais je pense qu'il se permettrait pas de leur parler comme ça. Ni ne parler à monsieur Tebboune en lui disant, va réparer la clim. Donc, je pense qu'effectivement, il y a quand même un petit quelque chose, chez monsieur Macron. Ce matin, alors, il a couru avec un champion de marathon.
Exactement.
Du Kenya. Il a fait la cuisine
c'est
avec un influenceur.
Au Kenya,
et il a joué à la baballe, au football, avec le président du Sénégal et du Kenya.
Il vient se mettre en scène.
Non, ça suffit. Ras-le-bol.
C'est un ancien comédien.
Moi, je vous le dis, il nous humilie. Pour moi, c'est de l'humiliation. Et en plus, venir aujourd'hui en Afrique, essayer de vendre quelque chose qui est une espèce de ressucé bidon de la France-Afrique, moi ça commence à m'énerver. Les 23 milliards d'investissements, moi j'aimerais mieux que ces 23 milliards ils soient investis plutôt
son
en France.
Conjoint, hein.
Et si il veut remettre de l'ordre, puisqu'il remet de l'ordre dans les amphithéâtres, qu'il vienne remettre de l'ordre dans le quartier.
Vous ne croyez pas ?
Non, qu'il vienne remettre de l'ordre dans le quartier des Moulins, c'est là qu'il doit remettre de l'ordre et pas dans une fac au Kenya. Point.
D'accord, mais vous ne croyez pas simplement à une réaction spontanée d'un homme qui trouve que c'est irrespectueux de faire du bruit alors qu'il y a des artistes
sur scène. À géométrie variable.
Après, je suis d'accord dans la réaction, il en fait toujours trop parce que cette façon de parler, hey guys, machin, genre des potes et tout, c'est vrai que c'est un peu ridicule. Il est président de la République, ça manque un peu de hauteur. Mais néanmoins, moi je vois la réaction spontanée de quelqu'un qui est agacé par le bruit. Et alors, de parler de colonialisme.
Moi, j'ai pas utilisé ce mot.
Il est toujours
spontané avec ses gentils amis africains qui ont toujours la banane. Il y a les tutoiements, on sait qu'ils se tutoient tous les présidents en privé, mais il y a les tutoiements en public envers les présidents africains.
Exactement.
Ils ne tutoient pas les présidents occidentaux publiquement, d'accord, devant les caméras.
Objection, ils tutoyaient le pape François, donc
sans parler de colonialisme et de racisme, il y a quand même un certain paternalisme chez M. Macron qui est soi-disant la nouvelle génération. Il a quand même un peu la petite tendance France-Afrique qui gratouille un peu.
Alors, à vous écouter, c'était effectivement OSS 117 qui était hier.
Exactement.
J'étais sûr. Allez, on enchaîne.
Même si tu entends au Kenya, c'est mieux.
Mathieu Pigasse, l'homme d'affaires propriétaire de plusieurs médias, veut créer une chaîne d'infos en continu de gauche sur la TNT. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Emmanuel ?
On s'en fout pas.
Abel ?
On s'en fout pas.
Barbara ?
On s'en fout pas.
C'est ce que rapporte le site Satellifax, projet porté aussi par Fabien Quay, vous savez, le sénateur communiste et directeur de l'Humanité. Tous deux espèrent obtenir l'une des 6 fréquences TNT qui seront remises en jeu en 2027 par l'ARCOM. Barbara ?
Non, mais Monsieur Pigasse a un projet qu'il a le courage d'assumer. Moi, je trouve ça, pourquoi pas, hein. Il veut rouler pour le pire de ce qu'il y a à l'extrême gauche, parce que Monsieur Pigasse n'a pas un projet de gauche. Monsieur Pigasse a un projet clairement indigéniste, racialiste, communautariste.
Et il trouve que Glucksmann est de droite. Il nous
voilà.
L'a dit.
Oh non, mais limite du fascisme. Excuse-moi. Hein. Donc Monsieur Pigasse a un projet qui est très clair, lui et son entourage. Ils ont une radio déjà, c'est Radio Nova, qui se déchaîne tant et plus sur tout le monde, en particulier sur Sophia Aram, évidemment. Donc, moi, je dis, pourquoi pas lui donner une chaîne ? Comme ça, il va peut-être un peu lâcher les baskets à Bolloré, déjà. Ça fera pas de mal. Et puis, comme ça, on pourra avoir la confrontation.
Quand tu dis que c'est un Bolloré de gauche, il est contre cette formule.
Mais moi, je m'en fous. Mais même Bolloré, il a le droit. C'est un acteur privé. Il a ses chaînes.
Donc, pourquoi pas ?
Et là, pourquoi pas Pigasse ? Mais comme ça, au moins, on saura où il veut en venir. Les choses seront bien claires. Moi, j'aime mieux quand c'est clair que quand c'est par en dessous et qu'on se fout de notre gueule en parlant de la liberté.
Est-ce qu'on a besoin d'une chaîne d'info, une chaîne info de gauche?
Alors, personnellement, non. J'en ai pas besoin. Mais moi, je dirais trois choses. D'abord, c'est surprenant, Monsieur Pigasse, qui est toujours présenté comme un millionnaire, ce qu'il est sans doute, hein, même si c'est exagéré quand on parle de milliardaires. Normalement, les millionnaires et milliardaires, c'est des gens extrêmement intelligents et perspicaces. Donc, vouloir véhiculer des idées de gauche à son âge, ça me paraît un peu troublant. Deuxièmement, c'est sa liberté. C'est-à-dire qu'il a le droit de promouvoir tout ça dans la légalité. C'est un bon communicant, il n'est pas antipathique à ses heures. Et puis la troisième chose, c'est qu'effectivement, ça mettrait fin aux querelles, au ciblage, à tort ou à raison de CNews en tant que chaîne engagée. Et après tout, pourquoi pas ? Rendez-vous sur l'audience. Même s'il y a déjà une scène de gauche, chacun la connaît, elle s'appelle France Info TV.
Tout a été dit, effectivement, moi je dis pourquoi pas, mais il y a le média qui cherche des financements, qui est un web média justement pour avoir un canal sur la TNT, il n'a qu'à investir dedans. Donc voilà.
Même le média, c'est pas assez à gauche pour monsieur.
Il avait dit qu'il s'engagerait dans la présidentielle.
Oui, mais alors, dans ce cas-là,
2027, les fréquences, c'est trop
tard. Dans ce cas-là, si on dit oui à Pigasse, il faut arrêter d'emmerder Bolloré.
Bah, bien sûr.
Ou Sterrin, ou je sais plus qui. C'est-à-dire que si on assume effectivement que désormais en France, il y a des chaînes d'opinion, ce qui a priori n'est pas possible, hein, parce qu'il y a un cadre, vous savez, en France, tout est cadré, normé. On n'a pas le droit, a priori, de faire des chaînes d'opinion de télé en France, c'est pas possible. Mais si désormais on peut le faire, comme aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, il n'y a pas de problème, Fox News c'est à droite, CNN plutôt à gauche, etc. Ben, dans ce cas-là, allons-y. Mais il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde, voilà.
Dans un instant, la deuxième heure des GG, la deuxième heure des Grandes Gueules. On sera en ligne avec le producteur de ce film, L'Abandon, qui retrace les derniers jours de Samuel Paty. Ça sort au Festival de Cannes demain, ça sortira en salle en simultané. Est-ce que les enseignants se sentent mieux protégés aussi depuis le drame Samuel Paty et Dominique Bernard? Et puis on aura une petite discussion politique pour savoir qui est le meilleur candidat qui doit incarner la droite dans la présidentielle.
Non RN.
Non RN, bien évidemment. Est-ce que c'est Bruno Retailleau ou est-ce que c'est Édouard Philippe? Vous venez au 32-16 en discuter avec Abel Boyer, Emmanuel Devilliers et Barbara Lefebvre. A tout de suite avec les grandes gueules sur RMC et RMC Story.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.